Si c'est avec vaillance, c'est-à-dire si c'est vraiment très fort, 80 ans. Autrement dit, pour la tradition juive, et même dans la Bible écrite, nous avons un enseignement qui nous donne, qui nous dit que la durée moyenne de la vie humaine est de 70 ans. Et par ailleurs, nous savons que David a vécu 70 ans. Mais comme par hasard, David, le premier Messie, a vécu 70 ans. Alors, on comprend ici la cohérence du deuxième rave. Le Messie doit régner sur Israël le moins longtemps possible. Et pour que la dignité du Messie et pour la dignité de ceux sous l'autorité de qui il sera, de cette génération, eh bien, il faut au moins que ça soit égal à une vie humaine, ou bien, si vous préférez, à la durée de vie de la vie. Il faut au moins que l'on puisse vivre 70 ans. On pourrait approfondir ça, mais vous voyez déjà, ce n'est pas arbitraire, n'est-ce pas, dans la cohérence biblique.
Une cohérence entre les deux premiers arguments, 40 et 70 ans, on peut dire aussi, refaire
une... Absolument. Ça va pour le deuxième?
Bon, il y a toujours des questions qui se posent, enfin des questions que vous voulez en plus demander.
Il y a beaucoup de questions.
Quel âge il sera là le Messie pour lui jusqu'à 70 ans? Combien de temps est-il s'il a 30 ans ou 40 ans pour se préparer? S'il a déjà 60 ans, il aura seulement 10 ans pour se préparer.
L'âge auquel le Messie viendra n'est pas dit ici. Supposer, c'est une supposition là absolument arbitraire. Hein. Il y a des textes peut-être qui parlent de l'âge, c'est possible, je ne les ai pas en tête, des textes qui formulent des possibilités là, parce que là aussi ce sont des possibilités, mais supposons très simplement qu'il ait 20 ans. Supposez qu'il ait 20 ans. Moïse a vécu 120 ans, Rabbi Akiva a vécu 120 ans, j'ai perdu une tante, disait Kadhiz encore il y a un an, qui est morte à l'âge de 99 ans et demi, aux grandes dames de ses enfants qui étaient furieux, qui espéraient qu'elle allait vivre 100 ans, faire une grande fête. Bon, donc 70 ans, ça n'a rien d'étonnant, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, l'époque du Messie sera une époque avec des différences, comme nous le verrons plus tard, puisque par exemple, vous avez vu que les 40 ans d'une génération, parce qu'à l'époque messianique, il y a déjà des modifications. C'est une époque de transition et il y a une différence entre le monde de l'époque messianique et le monde actuel. Et nous le verrons demain, si vous voulez bien. Vous me reposerez la question demain, dans le cadre plus général des modifications de l'époque messianique par rapport au monde dans lequel nous vivons, si vous voulez bien, n'est-ce pas? Mais je veux dire que même actuellement, moi, 70 ans, ça ne me dérange pas. Hein, quelqu'un qui vit normalement sans problème, bon, peut arriver jusqu'à l'âge de 90 ans.
Je ne sais pas poser des questions, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Ce que je voulais dire, c'est une époque où il faut se préparer pour l'Olam Haba, n'est-ce pas? C'est ça, là, si vous voulez, ça vous serait expliqué.
Non, il faut se préparer maintenant. Non, il faut se préparer maintenant pour l'Olam Haba.
Bon, mais le temps messianique, c'est pour quoi?
C'est uniquement une... On ne peut pas passer directement d'une situation d'exil, même si on est presque prêt pour le monde à venir. Il y a un passage transitionnel.
C'est ça. Donc, ce que je dis, ce passage de transition, il peut durer, si le Messie est déjà vieux, pour qu'il arrive jusqu'à 70 ans, mettons, s'il a 60 ans quand il arrive, jusqu'à 70 ans, on aura seulement 10 ans de passage transitionnel.
Non. Les textes nous disent combien de temps durera l'époque du Messie. Je répète. Regardez le texte. Je reprends. Durée des jours du Messie. L'époque actuelle a duré combien de temps? Elle dure déjà depuis plusieurs millénaires, depuis la création du monde, ce monde-ci. Combien de temps durera l'époque messianique? 8 jours. Est-ce qu'on sortira d'exil et 8 jours après, on sera dans le monde à venir? Est-ce que ça durera 1 an pour se préparer? Est-ce que ça durera 3 siècles? Est-ce que ça durera très longtemps? Combien de temps durera l'époque messianique qui, comme nous le verrons tout à l'heure, jeudi, quand nous serons dans la deuxième partie, nous verrons que c'est considéré comme un monde en lui-même. Et ça, c'est la deuxième. Je n'ai pas voulu mélanger justement les choses. Pour l'instant, nous sommes dans une vision, j'allais dire, beaucoup plus réaliste, concrète, dans la perspective d'une période de temps courte, raisonnable, qui fait transition entre une histoire longue et une réalisation permanente, je ne dis pas éternelle parce qu'elle a un début. Elle a un début, voilà ma part, un début, mais elle n'a pas de fin, donc elle est permanente. Il s'agit de savoir combien de temps durera cette époque de transition. 20 ans, 40 ans, 60 ans, 2 générations, 3 générations. Peut-être que la génération qui verra le Messie mourra, et qu'il y aura une deuxième génération, une troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à Olam Haba. Le problème des étudiants, c'est la durée de l'époque messianique. Voilà.
C'est-à-dire, je crois qu'il y a une confusion.
Je l'ai dit dès le début,
mais question, pas clair. Donc, Yemot HaMashiach, est-ce que ça veut dire exactement en hébreu?
Les jours
de la vie du Messie, ou bien, parce qu'il y a des variations dans votre traduction, la période messianique. Alors, la traduction traduit aussi le fleurissement de la conception. La vie du Messie ou de la période transitoire?
Les jours du Messie. Et en fait, parce que, pour impliquer le fait, il s'agit d'une personne. Mais le Messie, comme nous le verrons pour les trois générations tout de suite, peut inaugurer une époque messianique, puisqu'il s'agit d'un roi, et que de même que David a eu un fils Shlomo, et nous verrons ça tout de suite dans le rabbin suivant, on peut très bien voir le Messie et ses descendants et ses successeurs.
Et dans la Bible, l'expression du mot, du mail, plus Amel, etc., ça désigne les jours de sa vie. C'est bien l'expression traditionnelle, je veux dire, et il a vécu tant d'années.
Il vivra.
Enfin, non, mais il a vécu dans la Bible, tout ça.
Yamei HaMashiach, ça veut dire la durée de vie, effectivement. Ça veut dire la durée de vie. Donc au départ, il s'agit du temps pendant lequel vivra le Messie. Nous allons voir tout de suite. Nous allons tout de suite au troisième rabbin ce que ça veut dire. Aussi, au départ, c'est effectivement la durée pendant laquelle le Messie va vivre, va accomplir sa tâche. Bien évident, dans la première perspective de durée courte, c'est compatible avec une vie humaine courte ou longue. Nous, évidemment, dans les autres perspectives, de la durée de présence du Messie. Mais il va y avoir, donc automatiquement, nous verrons tout de suite dans le livre, il va y avoir automatiquement un glissement à partir de ce sens, à cause des durées données. Et au départ, c'est absolument clair, il s'agit de la durée de vie d'un monsieur qui est le roi Messie. À partir du moment où il fonctionne comme Messie. Aujourd'hui, il fonctionne comme Messie. Où il se manifeste, c'est-à-dire où il est loin, comme Messie. Les durées de la messianité, en fait. Exactement. Je vois que l'heure tourne, alors rapidement, vous avez une question à poser?
Non, je dis qu'il est déjà 8h, presque 10. Et pour la suite.
Rabbi Hillel. Rabbi, alors Rabbi nous dit, n'est-ce pas, 3 générations, comme il est dit, ils te craindront avec le soleil et en présence de la lune, génération, génération. Alors, premièrement, comme je vous l'ai dit, donc c'est un verset du psaume 72, et c'est un verset tout à fait messianique. Très curieusement, le verset 72 s'applique à Shlomo. Il commence, l'Ishlomo, Elohim, Ishpoter, etc. Parce que Salomon était effectivement un des messies possibles. Il y a dans l'histoire juive des gens qui auraient pu être messies. Il y avait Seth, fils d'Adam. Il y avait Jacob a pensé qu'il y avait une possibilité pour Samson, Shimshon, il a vu que ce n'était pas une possibilité. Ensuite, il y a Shlomo, Salomon. Il y a le roi Ézéchia. C'est pour ça que Hillel nous dira après qu'il l'a été. Il y a ensuite également Daniel, qui était un messie possible. Donc, David avait espéré et souhaité que Shlomo, son fils, pourrait réaliser le programme messianique et que Shlomo serait le messie. Et donc, ce psaume 72 est un verset qui s'applique à Shlomo, mais au cas où Shlomo ne pourrait pas réaliser, tout ce que dit ce psaume de David s'applique de toute façon au Messie. Je répète, ce psaume est un psaume messianique. David espère que Shlomo va le réaliser. Donc tout ce qui se trouve dans ce psaume s'applique à ce qui sera l'époque du Messie, avec l'espérance que c'est Shlomo qui le sera. Et dans ce verset, où on décrit la justice et tout ce que fera Shlomo, Eh bien, on arrive ensuite à notre verset. Il, c'est-à-dire Israël à l'époque messianique, te craindra avec le soleil et en présence de la lune, génération et génération. Alors, ils te craindront avec la lune. Alors, nous avons des versets dans lesquels le Messie est comparé à la lune. Nous avons, je vous donne, parce que comme l'heure tourne là, je vous donnerai le jeudi, référence, il y a des versets où très clairement le Messie est comparé à lui, au soleil. Et inversement, David, nous avons un autre verset où David est comparé à la lune. Alors vous voyez l'importance donc, du thème lune-soleil. Le Messie est comparé à la lune. Au soleil, c'est pas mal, hein. Et David est comparé à la lune. Alors, la traduction, donc la lecture du verset est la suivante. Ils te craindront, ils craindront Dieu, c'est-à-dire qu'il y aura la réalisation de Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu de façon parfaite en tant qu'il est le souverain, l'acceptation de la souveraineté de Dieu, Hakol Bide Shomaim, Kout Mirat Shomaim, tout qui entre les mains de Dieu sur la crainte de Dieu, c'est là qu'est lieu la liberté de l'homme. Tout le monde réalisera finalement cela, c'est-à-dire d'accepter sur soi la crainte de Dieu, ils te craindront tous quand Im Shomesh, avec le soleil, c'est-à-dire lorsque le Messie sera là. Velifnei Yoreach, et en présence de la lune, c'est-à-dire en présence du royaume de David, parce que le Messie est Mashiach ben David. Le Messie étant un descendant de David, comme vous savez, en présence donc de la royauté de David, en présence d'un descendant de David, donc c'est une répétition pour éclairer le problème, en présence du Messie, et pas d'erreur, le Messie c'est pas quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs que de David, et en présence d'un descendant de la famille de David. Génération 1, génération au pluriel 3. Alors, 3 générations, là aussi, c'est donc une affirmation dans la cohérence biblique, puisque le verset dit génération, génération, minimum ça fait 3. Une génération d'or, d'orim est un pluriel, ça fait au moins 2. Donc d'or, d'orim, ça fait 1 plus 2, donc le minimum pendant lequel se réalisera la période du Messie, c'est 3 générations dans cette perspective, dans cette lecture-là. Alors pourquoi me direz-vous 3 générations? Bon, première réponse, c'est ce qui est marqué ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous avons un enseignement, beaucoup d'enseignements qui nous expliquent, par exemple, le Maharal, tout au long de son œuvre, très souvent développe cette idée qu'un être ou un objet, pour qu'il soit complet, pour qu'il soit parfait, il a un commencement, il a un milieu, il a une fin. C'est-à-dire que quelque chose qui est un, en réalité, j'allais dire, peut se décomposer dans des éléments constitutifs. Et nous voyons, par exemple, qu'il y a des versets dans la Bible, en Genèse, lorsque fait jurer Abraham qu'il sera fidèle à l'alliance conclue avec voisin, Li, Livni ou Nini, jure à moi, à mon fils et à mon petit-fils. Nous voyons par exemple que pour qu'Israël puisse exister, il y a d'abord Abraham. Le commencement, Abraham ne peut pas s'appeler Israël. C'est un texte que nous avons étudié il y a 2 ans au cours régulier. Isaac non plus. Abraham, c'est le commencement de la constitution, le commencement de la création d'Israël, le commencement de cette mutation qui, d'un homme des nations, va fabriquer un juif d'Israël. Isaac continue. Jacob se termine. C'est Jacob qui a son nom changé en Israël. Donc, Abraham, Isaac et Jacob. Il faut 3. Et c'est ça qui nous explique que le Talmud a un enseignement à partir d'un verset de Michelet qui dit qu'un fil fait tisser avec 3 fils est indestructible. Alors, cet enseignement de Michelet est expliqué dans le Talmud, comme expliquant effectivement que la pérennité se traduit par quelque chose qui est composé de 3 éléments. Et c'est ce qui explique aussi un enseignement du Talmud, alors que on dit que la connaissance de la Torah n'est pas héréditaire. C'est un texte que nous avons vu cette année. Comment se fait-il que aussi peu de grands Chachamim avaient leur fils qui était même Talmidei Chachamim? Et une des réponses, c'est pour bien montrer que la Torah n'est pas héréditaire. Chacun doit en acquérir le mérite. Mais nous avons un enseignement que si un homme et son fils et son petit-fils sont effectivement complètement immergés dans la Torah, eh bien la Torah ne sortira jamais d'eux, comme nous avons un verset d'Isaïe qui est dit dans Ovol Tzion, n'est-ce pas, que la Torah ne s'écarte jamais de leurs lèvres, ni de leurs descendants, ni de leurs descendants. Donc toujours cette formulation en trois, hein, commencement, continuation, achèvement. L'unité réalisée, l'unité solide, indestructible, est composée de trois éléments. Et nous avons par exemple, le mot Adam. Le mot Adam, qui est le nom du premier homme. Adam. Eh bien, Adam, il y a un otaricon, c'est-à-dire, on peut considérer chaque lettre comme la première lettre d'un mot. Quand vous dites, le PC. Selon le cas, ça vient la petite couronne pour un gars qui travaille à RATP, mais le Parti communiste pour quelqu'un qui fait de la politique. Enfin, bon, nous avons donc certains mots, quand on parle de l'ONU, n'est-ce pas, il y a des mots comme ça qui sont utilisés en eux-mêmes. Dans la traduction juive, nous avons une série de lectures traditionnelles de cette façon-là. Eh bien, Adam, un des notaricons traditionnels, c'est que Adam, c'est la première lettre de Adam, de Adam. Dalet, c'est la première lettre de David, et même, c'est la première lettre de Mashiach. Ça veut dire que l'humanité passe par un triple stade. Il y a l'homme de départ, l'humanité originelle, qui a pour tâche de se constituer. Il y a une première réalisation au milieu de l'histoire, c'est David, et il y a l'humanité réalisée complètement, c'est Mashiach, le Messie, n'est-ce pas? Donc Adam lui-même se compose de trois lettres, et en particulier, comme vous voyez, ce n'est pas un hasard, si je vous cite ce notaricole, Adam, David, le premier Messie, et Mashiach, le troisième Messie. Je crois qu'il est 8h15 et que...
Non, c'est pas faux. Simplement, je vais vous donner une information importante. Ce que je veux rassembler, c'est que nous avons parlé des innovations qui ont été faites pour les séminaires de l'humanité. Nous faisons enregistrer des classiques.
Bon, il est après demain. Donc encore une petite chose qui me paraît importante. Les trois générations, encore un lien, un rapport entre soleil et lune, c'est que David, la royauté de David, vous avez Salomon, vous avez David d'une part, qui a régné 40 ans. Nous avons Shlomo, son fils, Salomon, qui a régné 40 ans. Et il y a eu ensuite le schisme entre le Juda d'Israël et la mort de Salomon. Et Jéroboam a eu un règne incomplet. Il n'y a pas eu les trois. Il n'y a pas eu les trois accomplis. Et par conséquent, on peut comprendre qu'à l'époque du Messie, il faut qu'il y ait au moins, pour la dignité, qu'il y ait au moins accomplissement de trois générations messianiques pour l'honneur du Messie. Ça n'a pas été réalisé au premier Messie. David, Salomon, 40 ans, Jéroboam, 11 ans, je crois simplement. Et donc, il faut qu'il y ait au moins trois générations aussi qui réalisent le royaume du David pour que Jéroboam a vécu 17 ans, mais avec le schisme, avec un royaume qui n'était pas parfait. Donc, les trois n'ont pas été réalisés au David. Il faut au moins qu'il y ait trois générations. Vous voyez, donc, ici, on peut dire, et là, ça répond à ta question, le Messie, son successeur et son petit-fils, n'est-ce pas, qui seront, puisque le mot Mashiach, ça veut dire roi, simplement, comme on l'a vu au cours d'hier, n'est-ce pas, Melech HaMashiach, le roi Messie, un roi pas comme les autres, mais un roi. Voilà, donc, nous arrêtons ici pour aujourd'hui, puisqu'il est 8h20, nous allons reprendre jeudi. Oui,
Didier, une page du traité de Saint-Esprit, 99a, qui étudie la question de savoir combien de temps dureront les jours du Messie, c'est-à-dire l'époque messianique, une fois arrivée, quelle est sa durée. Je ne peux pas revenir sur les introductions que nous avons faites, les problèmes méthodologiques, et de toute façon dont le problème se rattache au texte de Maïmonide étudié avec Rav Ashkenazi. Simplement, je rappelle très très brièvement que nous avons vu que ce texte qui se décompose en plusieurs parties, nous avons étudié, n'est-ce pas, rencontre totale de 10 opinions différentes. Chacune de ces opinions formulées par un des sages étant basée sur la lecture, sur l'interprétation d'un verset. D'ailleurs, pour les personnes qui n'étaient pas là il y a deux jours, vous avez donc le petit texte en français qui vous donne, on peut d'ailleurs mettre des textes derrière, comme ça c'est des gens qui arrivent en retard, qui pourraient se servir eux-mêmes. Merci, monsieur Meignard, sans avoir à déranger tout le monde. Donc, dans le texte en français, vous avez la liste de ces rabbins, la durée de l'époque messianique postulée, le verset sur lequel ils se fondent. Après avoir donc regardé dans une vision globale ces différentes opinions, nous avons commencé à les étudier l'une après l'autre de façon à essayer de comprendre les motivations auxquelles elles obéissent. Après avoir défini deux grandes parties, en sachant que l'époque messianique n'est pas une fin en soi, mais une époque de transition entre ce monde-ci et le monde à venir, qui est le but réel des espérances et de l'histoire humaine. Et que par conséquent, dans une première optique, on peut parfaitement comprendre que puisque le but ultime, c'est le monde à venir, Olam Haba, les rabbins du Talmud souhaitent que le monde à venir arrive le plus tôt possible. Et que par conséquent, ils souhaitent que l'époque du Messie soit la plus courte possible, de façon à ce que nous soyons directement, le plus rapidement possible, sous la royauté de Dieu lui-même. Et nous avons vu à ce moment-là comment un certain nombre d'opinions, Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi, ont donné des dates qui correspondent à ce que doit être un règne normal du Messie, compte tenu du fait que ce règne doit être complet et non pas coupé, non pas scindé, non pas avorté, et qu'il doit donc correspondre à la fois à la dignité de la fonction messianique et également, c'est un point que je rappelle au cas où il ne voudrait pas frapper, au fait que, comme l'explique très bien le Maharal, il n'est pas possible de passer directement de l'histoire de ce monde-ci et de l'exil dans lequel nous nous trouvons, même si nous sommes prêts apparemment à franchir le pas, il n'est pas possible de passer directement de la situation d'exil à la situation de résurrection des morts et du monde à venir sans qu'il y ait au moins un intermédiaire qui nous permette de franchir ce pas. Mais étant donné que la promesse va vers un monde qui est supérieur au monde messianique, alors comme dit le Maharal, eh bien, il est compréhensible qu'au contraire, on se réjouisse d'y arriver le plus tôt possible. Et que la transition de l'époque messianique n'est donc, je le répète, qu'un tremplin pour arriver à ce stade plus important, plus élevé. Et donc, encore une fois, on comprend que les rabbins voient quel est le délai possible le plus court pour être conforme à cela. Alors, je rappelle Rabbi Eliezer, pour les 40 ans, nous avions vu comment, en se basant donc sur un verset du psaume 95-10, il y a la relation faite avec les 40 ans du désert, de même qu'il avait fallu 40 ans pour sortir de l'exil d'Égypte, pour arriver à Eretz Israël, la terre sainte, la réalisation après la libération matérielle et également spirituelle, puisqu'entre-temps il y a eu Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï, eh bien il a fallu 40 ans, et que ces 40 ans sont donc le minimum nécessaire, même si ces 40 ans sont particuliers. Nous avons déjà là une indication importante pour la discussion générale, même si ces 40 ans sont particuliers, puisque le verset dit « Arboim shono okut bedor » 40 ans, j'agripperai une génération, alors qu'une génération c'est 20 ans seulement, et que là il s'agit de 40 ans, comme l'explique Rashi, c'est une génération différente de celles qui les ont précédées, puisque nous sommes l'époque messianique, et que l'époque messianique comprend des modifications par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, et nous verrons, si nous avons le temps, qu'il y a là un sujet de discussion dans le Talmud, quant à savoir si l'époque messianique sera une époque où les lois de la nature continueront à gouverner le monde, ou bien si le monde sera gouverné par Dieu lui-même,
c'est-à-dire al, atéva, au-dessus des lois naturelles. En ce qui concerne Rabbi Eliezer ben Azaria, nous avons vu que lui postule une possibilité de 70 ans en se basant sur le fameux verset qu'à propos de la ville de Tyr, qui sera oubliée pendant 70 ans, à propos d'un autre sujet, dans Isaïe 23, 15, eh bien, on ajoute, comme le dit Rashi, des mots qui sont apparemment superflus. Rashi le dit non pas sur la Gemara, mais sur le verset d'Isaïe que vous n'avez pas ici, Kimei Melech Echot, comme les jours du roi 1, ce qui nous fait entendre que les jours du roi 1, c'est-à-dire le seul qui peut s'appeler roi vraiment, le seul qui mérite ce titre, le Messie, doit durer au moins 70 ans. Et je vous ai rappelé que 70 ans, ça équivaut à la vie moyenne d'un homme, d'après un verset qui est le psaume 90, verset 10, le jour de nos années, 70 ans, ici avec vaillance, 80 ans, Tehilim 90, 10, et qu'effectivement, David lui-même a vécu 70 ans, et que par conséquent, le Mashiach ben David, le Messie descendant de David, doit au moins, pour sa dignité, que l'on puisse dire que c'est un Messie qui a régné vraiment, vivre, régner, diriger Israël, le temps d'une vie humaine. Et que les gens doivent au moins, avoir l'équivalent d'une vie humaine, l'équivalent de 70 ans, sous la conduite du Messie. Enfin, nous avons vu pour Rabbi, c'est-à-dire pour Yehuda Nassi, lui parle de trois générations, en se basant sur un verset, psaume 72, 5, que nous avons vu, n'est-ce pas, ils te craindront, im ha-shomesh, avec le soleil, velifnei yoreach, et en présence de la lune, d'ordorim, donc au moins trois générations. Et je vous rappelle que, effectivement, Israël est comparé, le Messie est comparé au soleil, comme l'explique Rashi sur la Gemara. Vous avez Rashi même dans l'édition vocalisée, vous l'avez à gauche en caractère rachidien et non pas rachitique. Et vous avez donc, pour ceux qui savent lire Rashi, sur ce troisième, il nous explique qu'effectivement, le Messie est comparé au soleil. D'ailleurs, ça se trouve dans le même psaume 72 qui dit au verset 5 « Ils te craindront avec le soleil et en présence de la lune », eh bien, dans le verset 17, que son nom soit pour toujours en présence du soleil, que se perpétue son nom. Et donc, il y a un rapport entre le psaume 72, je vous rappelle, psaume messianique, nous l'avons expliqué avant-hier, psaume entièrement visé sur Shlomo, sur Salomon, en tant qu'il pourrait être, en tant que David souhaitait qu'il soit le Messie, et donc décrivant tout ce que sera, devra être le Messie. Eh bien, au psaume, dans le verset 17, le Messie est comparé au soleil. David est comparé à la lune. La référence de Rashi, c'est dans le psaume 89, verset 38. Or, effectivement, vous verrez à partir du verset 36, déjà, on parle donc de David. Une fois, j'ai juré par ma sainteté, est-ce qu'à David je mentirais? Et alors, il y a un autre verset, et le verset 38, comme la lune, il sera établi toujours. Donc, il s'agit bien de David, qui est comparé à la lune. Et donc, c'est important parce que je vous ai dit, nous avons vu que tout le temps, nous avons des comparaisons, lune-soleil, lune pour David et soleil pour le Messie. Je vous ai dit également que ces trois générations, je vous ai rappelé, et j'ai fait un assez long exposé, n'est-ce pas, pour vous dire que la conception de...